Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous, je vais vous parler de fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans le Volvestre en 2022. Les fouilles de Césérée à Carbone. Eh bien, c'est dans le cadre du projet de construction de la station de traitement et de production d'eau potable par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, au lieu dit Césérée, sur notre commune de Carbone. Un diagnostic archéologique de l'emprise a été réalisé en 2020. Ce diagnostic archéologique a révélé la présence de vestiges gallo-romains. Nous sommes à Carbone. Le préfet de la région a alors prescrit une fouille préventive en préalable aux travaux. La SCOP ADES, société qui siège à l'Union, a été retenue par l'aménageur pour effectuer cette opération. Ce choix a été approuvé par le ministère de la Culture. Comme le prévoit la loi, ces fouilles ont été financées par l'aménageur qui participe ainsi au sauvetage du patrimoine archéologique par l'étude des vestiges conservés dans le sol. Le chantier a débuté le 5 septembre 2022 et a mobilisé une équipe de 8 archéologues pendant environ 60 jours sous la direction de Raphaël Macario, archéologue. Alors, le site se situe à la confluence de la Garonne et de la Rize à Carbone, au lieu dit Césérée. Le terrain plat surplombe les cours d'eau à une hauteur suffisante afin d'être protégé d'une quelconque crue. Césérée est en face de la ville actuelle de Carbone. Sa superficie est de 10 000 m². L'emprise de la fouille réalisée est au sud de ce terrain. Eh bien, que nous révèlent les fouilles? Elles ont été réalisées par des techniques classiques de fouilles manuelles avec étude stratigraphique par coupe, une étude fine et plus large aussi, orthophotographiée par des drones et aussi une synthétisation des images, un quadrillage des zones et des collectes de matériaux. La fouille nous montre un enclos rectangulaire de 70 mètres sur 30 mètres de large, dont les limites se prolongent hors emprise de la fouille, sous la route allant à la Trappe, un peu avant le pont sur la Rize, et celle longeant à l'ouest le chemin dit du Vieux-Port. Au nord, la parcelle est bordée par un fossé de drainage de 80 mètres, ainsi qu'un autre fossé longeant la partie nord du bâtiment. Il s'écoule ainsi vers la rivière, assainissant le terrain. Au centre de ce grand enclos, un grand bâtiment rectangulaire, 40 mètres sur 22 mètres, présente une cour centrale. Les murs sont puissants, d'environ 1 mètre de large, et ils ont conservé cette fondation, atteint 1 mètre à 1,30 m. Ils sont construits en gros galets de Garonne, joints à la terre, et viennent s'appuyer sur ces murs 4 contreforts qui indiquent la nécessité d'un soutien, d'une structure qui devait être très haute et lourde. Les murs, aujourd'hui disparus, étaient constitués de matériaux comme la brique et quelques galets liés à la chaux. On trouve de part et d'autre des fondations, des éléments de briques et de tuiles gallo-romaines venant du toit, des tégulés, des imbrex et une grande quantité caractéristiques des constructions gallo-romaines. Dans ce bâtiment, la cour centrale est délimitée par un mur en briques de 60 à 80 cm. Il y a trois assises de briques qui donnent l'idée de ce qu'était ce mur intérieur de la cour. Les briques, elles, mesurent 30 à 17 cm de large et la surface intérieure de la cour est de 338 mètres carrés. Cette cour est entourée d'un enclos. Le sol, par contre, est en terre battue, lieu de pluriactivité, de petite métallurgie. Dans la galerie apparaissent trois foyers, avec la terre noircie, des trous de poteaux, avec de la brique en calage. On trouve également un four presque parfait. Alors ce four pose problème. Est-ce un four à pain ou un four de séchage des céréales? Dans cette cour ouverte, deux entrées se font face d'une largeur de 4,30 m. On pense que c'est pour le passage de chariots. Tout autour, une galerie en enclos de 5 mètres de large. Dans l'angle sud-ouest de la construction se situe une série de fondations maçonnées qui relèvent de l'existence d'une vaste halle sur poteaux. 12 poteaux soutiennent l'édifice et on a trouvé 47 trous de poteaux dans cette fouille, au total. Sous les niveaux d'époque gallo-romaine, 1er siècle, 3e siècle, il a été découvert quelques vestiges plus anciens, comme le foyer reconnaissable à terre rougie par le feu. Celui-ci est d'époque gauloise, c'est-à-dire ici, Volque. Ici, dans cette halle, nous trouvons une grande quantité de graines carbonisées. Alors c'est très intéressant. Une fosse de 50 cm sur 1,10 m, au milieu de laquelle il y a aussi des débris de vaisselle commune et de présence de nombreux clous. Ce sont des restes de planchers carbonisés. Alors pour revenir aux graines, toutes ces graines ont été récupérées et analysées. Nous avons récupéré 46 échantillons et les études carbologiques ont montré la présence de blé nu, qu'on appelle tritium, en stockage. C'est du blé prêt à être consommé. On trouve aussi des fèveroles, de l'orge en quantité moyenne. Mais il y a absence de fibres de textile. Sur ces piliers, on a calculé qu'il y avait 800 mètres carrés de stockage posés sur les planchers, élevés et ainsi protégés des nuisibles et de l'humidité. On imagine ainsi le tonnage supporté par le bâtiment. Et alors, bien sûr, on en déduit l'hypothèse d'un immense grenier, un granarium, et cela semble une évidence. Quelles sont les conclusions de ces fouilles de Césarée? Alors, ceci était très intéressant. Le site de Césarée-Gonac, à Carbone, sur la rive droite de la Garonne, face donc à la ville de Carbone, est un site archéologique qui a existé au temps pré-romain, puis gallo-romain, jusqu'à la fin de l'Empire, fin du IVe siècle, début du 5e siècle. Les zones de Césarée et de Gonac sont les lieux d'origine de la population qui, au 12e siècle, fondera la ville de Carbone en s'installant dans le méandre du fleuve sur l'autre rive. De nombreux vestiges ont été retrouvés au cours des temps dans tout cet environnement. La vie de tous ces riverains est liée aux activités commerciales. Ici, la Garonne joue un rôle primordial dans le ravitaillement des villes, comme Toulouse, ville essentielle de la Narbonnaise. du fleuve, il existe de nombreuses villas rusticas dont les domaines agricoles sont immenses et qui exportent leurs richesses. Nous avions pensé trouver les traces d'une villa à proximité, sans résultat pour le moment, mais nous savons qu'elle a existé. Le volume de stockage de cet entrepôt dépasse celui d'une seule villa. L'axe Lugdunum Convenarum, c'est-à-dire Saint-Bertrand-de-Comminges-Toulouse, Tolosa, est essentiel. La voie romaine suit d'ailleurs le cours du fleuve. Nos conclusions vont dans le sens de cette activité agricole très importante dans ces plaines alluviales. La présence de blé tendre est un signe significatif des besoins de population. Rappelons qu'un habitant de Rome consomme 1,3 kg de blé par jour. Rappelons aussi qu'à la fin de l'Empire, les hordes de barbares ont été attirées par ces richesses, le blé étant monnaie de négociation avec les Romains. Le granarium est donc ici parfaitement situé. Le port sur la Garonne est tout proche. Il n'en reste aucun vestige, si ce n'est sa présence encore au XIXe siècle, ainsi que le nom du chemin du vieux port. La date de la destruction du grenier est difficile à préciser, tout comme celle des villas rusticas de la vallée de la Garonne. Martres-Tolosane avec Chiragan, Lafitte avec Quériac, Marquefave, etc. Seule la déferlante de la fin des temps romains peut l'expliquer. Le port est installé dans une zone concave, c'est-à-dire zone de la rive droite du fleuve, avec une profondeur des eaux suffisante, 1,70 m, et constante à l'époque, car il n'y avait pas encore de retenue en amont. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois à l'écoute de Radio Galaxy. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxy 98.5 FM.